Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Jusqu'à midi sur Radion, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles et d'avoir retenu ce nouveau numéro de votre rendez-vous littéraire et culturel. Aujourd'hui, deuxième et dernière partie du compte-rendu de la déambulation littéraire du festival Nature en Livre qui a fait escale le 25 juillet dernier sur la colline éternelle. En effet, elle a débuté devant l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or, place du Champ de Foy, pour se rendre ensuite chemin de la Corderie derrière la maison de Romain Rolland qui désormais abrite le musée départemental d'art moderne. C'est en effet là, rempart sud, que l'organisatrice du festival Nature en Livre, Gertrude Dodard, avait prévu une pause didactique avec la présidente de l'association Romain Rolland, Martine Liégeois, accompagnée de Jean Lacoste, germaniste et philosophe, qui a mis à jour et annoté le journal de Vézelay 1938-1944, édité aux éditions Bartilla en 2013. Nous entendrons d'ailleurs Martine Liégeois et Jean Lacoste un peu plus tard au cours de notre émission. Mais Gertrude Dodard avait invité deux auteurs, deux femmes, qui ont des œuvres différentes, mais quelque part qui se répondent et qui pourraient parfois être complémentaires. En tout cas, les échos sont possibles. Je veux parler de Ella Ballert, novelliste, et de Géraldine Doutriot, universitaire. Également invité l'ancienne éditeur, créateur des éditions Rhubarbe, Alain Quévez, que vous entendrez également dans cette émission pour une petite leçon, quelques rappels fondamentaux sur le genre fantastique. C'est au programme et au sommaire de Wagon Livre aujourd'hui sur Radion. Nous avons, au cours de cette déambulation, vécu un temps fort de rencontres dans la salle romane du Centre Sainte-Madeleine, un temps fort animé par un nouvelliste belge qui participait également à cette déambulation. Je vais parler de Luc Lenz, que je salue et que je remercie, et qui a animé un échange entre les deux autrices, Ella Ballert et Géraldine Doutriot. Vous allez entendre pour l'une et l'autre leurs interventions par rapport à leur approche de la nouvelle. Comment se sont-elles précisément engagées dans l'écriture de la nouvelle, avec toujours présent à l'esprit le fait que, pour faire court, c'est aussi extrêmement difficile. On écoute d'abord Ella Ballert. Je rappelle, c'était le 25 juillet 2026 dans le cadre du festival Nature en Livre.
C'est une place constante, enfin, qui a évolué, mais constante. En fait, dès le début, j'ai écrit des nouvelles. Mes premiers textes publiés ont été des nouvelles dans des revues, mais également dans un recueil, puisqu'en premier, le premier livre, la même année, c'était un livre pour adolescents, La lettre déchirée, et un recueil de nouvelles. Donc ça, vraiment, c'était dès le début de mon écriture, et ça, c'était, je vous parle des années, fin des années 90, hein, ça commence à dater. Voilà, donc la nouvelle était présente et je continue. Donc j'ai effectivement publié 3 recueils et à peu près 40, je sais pas, quelque chose entre 40 et 50 nouvelles dans des revues. À côté de ce travail d'écriture de nouvelles, donc pendant plus de 30 ans, j'ai écrit et publié un certain nombre de romans, également d'essais et d'essais sur la pseudonymie littéraire, puisque Ella et Ballert sont des pseudonymes. Donc j'ai publié récemment le fruit d'une réflexion sur cet état étrange qui est de vivre sous un autre nom que celui qu'on a reçu de la famille, avec d'autres témoignages d'ailleurs, hein, pas seulement le mien, mais et puis également des récits biographiques avec donc récemment ce travail sur Léona Delcourt qui a inspiré le personnage de Nadja d'André Breton, également Une femme pirate, c'était mon premier roman pour adultes, Marie Red en 2001, donc une femme pirate du 18e siècle qui a vraiment vraiment vécu, que j'appelais Marie Pirate, et puis deux livres sur George Sand, un qui était paru en 2012 et un qui vient de paraître au cours toujours édition, donc de biographie de cette autrice immense qui était George Sand. Donc oui, effectivement, j'aime bien explorer tous les genres et puis les traverser. Et puis...
À l'instant, Ella Balert, enregistrée le 25 juillet 2026 lors du festival Nature en Livre, un festival littéraire éco-poétique. Quelques mots de présentation sur Ella Balert que vous avez entendu, normalienne et agrégée. Elle a travaillé quelque temps dans l'enseignement puis dans la communication et puis elle se consacre aujourd'hui désormais entièrement à l'écriture, à la sienne et à celle des autres, parce qu'elle anime aussi des ateliers d'écriture. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages dans différents genres éditoriaux, romans, nouvelles, théâtre, des ouvrages aussi pour la jeunesse, et puis elle a exercé différents métiers. Je tiens à préciser tout de même, c'est très important, qu'en tant que nouvelliste, Ella Balert a reçu en 2021 un prix prestigieux, c'est le prix Bocasse de la nouvelle pour son recueil « Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces » paru aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. On pourra mentionner aussi « De plume et d'aile », un livre et un texte malicieux et émouvant puisque Ella Balert utilise un pseudonyme et effectivement elle s'interroge pourquoi prend-on un nom de plume? Alors de Romain Gary à Stendhal en passant par Ella Balert, toute une réflexion sur les notions de masque, d'origine, de racine et d'identité. Vous avez donc pu l'entendre lors d'une rencontre qui était animée par Luc Lins, nouvelliste belge. Et puis la semaine passée, dans Wagon Livre, vous avez pu entendre Ella Balert lire un extrait de Léona D., la femme cachée dans le mythe de Nadja. Cette fois-ci, nous allons entendre l'autre auteur invité par Gertrude Dodard au festival Nature en Livre à Vézelay. Je veux parler de Géraldine Doutriau, que vous avez entendu la semaine dernière lire un extrait de la biographie romancée qu'elle a consacrée à Marguerite Audoux, ouvrage qui a pour titre « Le cas Marguerite Audoux » paru aux éditions des Femmes Antoinette Fouque l'année dernière. Géraldine Doutriau est auteure agrégée de lettres modernes. Elle a collaboré à un grand nombre de revues et il faut... Et c'est très important, rappeler qu'elle a reçu le prix Annie Ernaux en 2008. Alors, elle écrit également des scénarios et des articles sur des auteurs oubliés comme Marguerite Audoux, pardon. Elle a été également journaliste au Parisien, au supplément Économie et également metteur en scène. Elle a effectivement essayé de sortir de l'ombre Marguerite Audoux, écrivaine autodidacte née en 1863 à Sancoin, dans le Cher. À l'âge de 14 ans, la petite Marguerite Audoux fut placée en tant que bergère et servante de ferme en Sologne. À 18 ans, elle part s'installer à Paris et y exerce le métier de couturière. Et le roman le plus célèbre de Marguerite Audoux, c'est Marie-Claire, qui a reçu le prix Fémina en 1910, Marguerite Audoux, qui a fréquenté des écrivains de sa génération, dont Léon Paul Fargue, Valérie Larbeau, Léon Werth, Octave Mirbeau, André Gide et Romain Rolland, qui, vous le savez, s'installe à Vézelay de 1938 jusqu'à sa mort en 1944. Nous allons entendre cette fois-ci Géraldine Doutriau, à qui Luc Lens, animateur de ce débat, avait demandé quel était le lien qu'elle entretenait avec l'art de la nouvelle et quel rôle finalement la nouvelle a dans son parcours d'écrivain. Géraldine Doutriau.
Alors moi j'ai un parcours plus mince que celui de Ella. Hein. J'ai publié deux livres, un récit inspiré de mon expérience professionnelle de professeur en REP, qui s'appelle « Chercheur de diamants » il y a 6 ans. Et j'ai publié récemment une biographie romancée sur une écrivaine de la Belle Époque, un peu méconnue, et qui s'intitule « Le cas Marguerite Audoux ». Et la nouvelle, moi j'ai pas publié de recueil de nouvelles, j'ai publié des nouvelles dans des revues. Et quel rôle a la nouvelle dans mon parcours d'écrivain? Je pense que la nouvelle, c'est un... quand on a du mal à terminer et aller au bout d'un récit, eh bien la nouvelle, elle peut avoir ce rôle de, enfin elle l'a eu pour moi, de désamorcer une forme d'impuissance, une forme de difficulté à aller au bout. Et le fait que ce soit bref, la brièveté de la nouvelle, peut rassurer et peut aider, enfin moi ça a été ça, ça m'a aidé à enfin terminer des histoires avec un début, un milieu et une fin et à mettre un point final. Et ça c'est une étape, une marche que la pratique de la nouvelle permet de franchir plus facilement et qui peut permettre ensuite de passer à des récits plus longs. Voilà, ça a eu ce rôle un peu de désamorçage. C'est ce que je peux dire sur le rôle. Et par ailleurs, en tant que lectrice, je lisais beaucoup de nouvelles et j'aime cet art en soi. C'est vraiment d'un coup, sur 2 ans, j'ai pu écrire comme ça une quinzaine de nouvelles. J'y suis arrivée et ça s'enchaînait bien. Ça s'écrivait assez relativement facilement. Bon, après, il a fallu les retravailler, bien sûr. Hein, c'est tout un fignolage. Mais c'est une esthétique en soi. Mais voilà, donc oui, ça a permis ça. C'est un peu les prémices dans mon parcours d'autrice, de modeste autrice. Mais en gros, toutes les nouvelles que j'ai écrites sont inspirées de souvenirs d'enfance et d'adolescence. Alors évidemment, tout est romancé, etc. Mais en fait, je trouve que c'est super les nouvelles. Enfin, en gros, j'avais un peu conçu l'idée d'un recueil qui serait comme... qui chaque nouvelle développerait une tranche de vie. Et c'est vrai que je trouve que quand on se penche sur notre passé, surtout sur l'enfance et l'adolescence, la jeunesse, on se rend compte, on pourrait presque mettre des chapitres que sur une frise chronologique. Ah, ça, c'est le chapitre le chapitre Tom, etc. Enfin, il y a plein de tranches de vie et chaque nouvelle développait une petite tranche. Et ces tranches étaient souvent d'ordre amoureux ou amical. Souvent, dans notre jeunesse, on est marqué par des rencontres. Souvent d'ailleurs assez brèves, mais fulgurantes, fortes. Et je trouvais que la nouvelle, ça s'adaptait bien parce que c'est bref. Souvent, du coup, c'est plus dense, c'est condensé, donc c'est fort. Et ça s'adaptait bien à ce type de souvenir de rencontres amoureuses ou amicales. Et donc, chaque nouvelle que j'ai pu écrire développait des moments un peu forts. Alors, pas forcément celle que j'ai lue, enfin, le cours de russe. Mais ça développait des rencontres, en tout cas. Vous savez, quand on est enfant, adolescent et qu'on fait la rencontre de gens, qui nous marquent, alors que parfois on les a fréquentés que 15 jours ou un après-midi, ou parfois 2 mois. Mais ça nous paraît, à cette époque-là, ça nous paraît long, dense, profond. Et c'est ce que j'ai voulu faire. En écrivant ces nouvelles, c'est développer comme ça des moments.
À l'instant, vous avez pu entendre Géraldine Doutriot, enregistrée le 25 juillet 2026 à la salle romane du Centre Sainte-Madeleine à Vézelay, lors d'une rencontre animée par le novelliste belge Luc Lenz. Je rappelle que Géraldine Doutriot a fait paraître en 2025 une biographie partiellement romancée de Marguerite Audoux, intitulée « Le cas Marguerite Audoux », c'est aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Je rappelle que Marguerite Audoux est née en 1863 à Sancoin, dans le Cher, et qu'elle est née de parents illettrés. Elle a une ascension tout à fait particulière, mais de fille du peuple, puisqu'elle est d'abord bergère et servante de ferme en Sologne. À 18 ans, elle part s'installer à Paris où elle exerce le métier de couturière, et puis elle fera paraître un roman qui deviendra extrêmement connu, qui a pour titre Marie-Claire et qui recevra le prix Fémina en 1910. Les ventes d'ailleurs dépassèrent les 100 000 exemplaires et Marguerite Audoux a fréquenté des écrivains comme Léon-Paul Fargue, Valérie Larbaud, Octave Mirbeau, André Gide et Romain Rolland, ce qui nous ramène d'ailleurs à Vézelay, puisque comme vous le savez, après avoir quitté la Suisse, Romain Rolland décide de revenir s'installer en France dès 1938. Il achète une maison à Vézelay, rue Saint-Étienne, et il y meurt en 1944. Je rappelle d'ailleurs au passage que la maison de Romain Rolland abrite actuellement les collections du Musée départemental d'art moderne. C'est Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Petite virgule musicale et on se retrouve juste après.
Je sais pas qui un beau jour s'est penché sur mon berceau. La coquille écrit ma vie a pris son plus beau stylo. Je connais pas ma droite, ma gauche. cache, mais je sais où est le soleil. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui m'a fait un petit café au réveil. J'ai compris depuis petite que les sourires sont des miroirs. C'est celui qui dit qui est, donc faut être super sympa. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Et ouais, je préfère être amoureuse qu'une rageuse du web. Tous les dimanches, je marche avec ma chance sur les trottoirs de Belleville. Que j'ai froid, que j'ai peur, que je ris, que je pleure. C'est toujours les mêmes rides. Si je pouvais choisir, je choisirais la même ville. Même quand c'est pas la belle ville, j'aimerais l'appeler la belle ville.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous vous proposons un compte-rendu, c'est une deuxième partie d'ailleurs, de Nature en Livre, festival littéraire éco-poétique, qui a organisé, par le biais de l'association Hostellerie de la Tour, une déambulation littéraire à Vézelay. C'était le 25 juillet 2026. Au cours de cette déambulation littéraire, nous avons enregistré des lectures, nous avons fait des rencontres, notamment avec trois auteurs, quatre même, je le dirais, Ella Ballert, Géraldine Doutriot, Luc Lenz, Alain Quévez, sans parler la présidente de l'association Romain Roland, Martine Liégeois, que vous entendrez un petit peu plus tard, avec Jean Lacoste, celui qui a annoté et édité le journal de Vézelay de Romain Roland 1938-1944, c'était en 2013 me semble-t-il, aux éditions Bartilla. Et puis vous entendrez également Claudie Stassard des éditions La Goulotte, et nous saluons toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette sympathique déambulation littéraire à Vézelay. Et justement, je vous propose d'entendre d'autres interventions des deux nouvellistes que Luc Lenz a stimulées par des questions. C'était à la salle romane du centre Sainte-Madeleine à Vézelay. On va réentendre Ella Ballert et Géraldine Doutriot, notamment pour leur demander quels sont les thèmes qu'elles aiment aborder dans leur recueil de nouvelles. Et on va d'abord entendre Ella Ballert.
On va mettre de côté les nouvelles qui sont des réponses à des commandes sur un thème imposé. Après, il y a la manière d'aborder le thème et de traiter le thème qui fait qu'on on retrouve quand même ces petites marottes et ces thématiques particulières. Non, en fait, je ne sais pas si c'est réellement un choix en réalité quand je commence à écrire. Je ne sais pas forcément si ça va être, si ça va devenir un roman ou une nouvelle. Je constate simplement que je ne suis pas dans la... enfin, en fait, c'est l'écriture qui me le dit. Je disais une fois à titre de boutade, mais en y réfléchissant, c'était pas seulement une boutade, que c'est l'état de mon bureau qui me disait si j'étais en train de commencer un roman ou en train d'écrire, commencer une nouvelle. Parce que si le bureau est commence à s'encombrer de pas mal de choses, de post-it, de feuilles que j'imprime, que je répartis, si je commence à avoir une documentation qui s'empile, etc., là, je suis partie dans un roman. Ça va être une longue affaire. Et parce que j'ai besoin de projeter, de construire, de composer, de savoir visualiser, de savoir où je vais, et ce qui n'empêche pas les personnages après de m'emporter où ils veulent. Mais j'ai quand même besoin à un moment donné de cette architecture-là. Alors que la nouvelle, eh bien, je le sais à mon bureau, parce que mon bureau est absolument vierge. Il n'y a rien. J'ai juste mon petit point de départ, mon fil que je tire, et voilà, et ça va devenir... Alors, est-ce qu'il faut l'appeler une nouvelle? En réalité, je ne sais pas. Ça va devenir un texte plus bref, ça c'est certain. Mais voilà, je lâche prise. Et c'est aussi pour ça que ça devient plus facilement onirique ou fantastique, ou enfin, je ne sais pas, peu importe le mot, réalisme magique, comme on veut. Enfin, quelque chose qui va nous emporter un petit peu ailleurs d'un univers plus rationnel. Quoi que ce soit pas du tout systématique. Ce recueil Poisson Rouge, où effectivement, il a une certaine cohérence de ce point de vue-là, dans l'ambiance un peu surréaliste, fantastique, bon, mais c'est pas du tout le cas de toutes mes nouvelles. Mais des fois, ce sont des textes, des récits brefs. Je sais pas, ça raconte quelque chose ou pas d'ailleurs. Enfin, ouais, mes premiers textes, ils étaient publiés dans une revue de poésie. Bon, bah alors on appelait ça des poèmes. Si c'était accepté par une revue nouvelle, et ben va pour la nouvelle. Moi, je suis pas contrariante, hein, ça m'est un peu égal. J'écris un texte et puis ouais, c'est aussi la réception. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la réception qui dit ce qu'on a écrit, qui va ranger ça dans une catégorie. Mais au moment de l'écriture, ça se passe pas comme ça. Ça ne se joue pas de cette façon-là. Moi, je ne maîtrise pas grand-chose dans la nouvelle. C'est elle qui a tout le contrôle. Là, c'est vraiment, l'écriture m'emmène je ne sais pas où au départ. Dans un roman, j'ai davantage besoin, comme je vous disais, de contrôler, parce qu'il faut lâcher prise à un moment donné, bien sûr. Mais enfin, tout de même, de construire, de bâtir, d'organiser quelque chose. Puis je suis d'accord que dans le cadre de la nouvelle, on n'a pas vraiment possibilité de bavarder. Il y a une... si on veut bavarder, on va peut-être plutôt se lancer dans un roman. Oui, on va peut-être, si on veut faire des digressions, si on veut, voilà. Mais en même temps, il n'y a pas d'obligation. Moi, ce que j'aime dans la nouvelle, c'est aussi la grande liberté qu'elle nous offre. C'est-à-dire qu'elle nous libère des contraintes, en réalité. Bon, mais enfin, c'est vrai que... Alors, oui, on peut parler de densité. Moi, j'aime bien parler aussi de condensation. C'est voisin, mais c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire la condensation, presque au sens du travail de condensation du rêve. C'est-à-dire, tu parlais d'ellipse, par exemple. Et c'est vrai que dans l'écriture de la nouvelle, il y a souvent ça, cette faculté qu'a la nouvelle de concentrer en un seul élément des éléments épars comme ça, mais qui vont tout à coup prendre une dimension, je sais pas, parabolique et avoir plusieurs significations, plusieurs implications. Et là, je trouve quelque chose qu'il y a quelque chose qui rappelle un peu le travail du rêve. La nouvelle, c'est un peu le contenu manifeste, quoi. C'est pour ça que parfois c'est un peu intrigant. C'est pour ça que parfois, je trouve que la nouvelle, elle est facilement onirique ou fantastique. On se réveille, on ne sait pas trop ce qu'on a rêvé. Finalement, c'est étrange. Hein, et il y a eu des choses bizarres qui se sont passées. Mais voilà, il y a ce travail de condensation qui fait de la nouvelle facilement quelque chose qui peut la rapporter à une parabole, à une légende, quelque chose qu'on va décrypter, qu'on va lire, qu'on doit. C'est ça la légende, hein, c'est la legenda, et c'est ce qu'on doit lire, apprendre à lire, à décrypter. J'aime bien ce mot de décrypter. Pourtant, on disait qu'il fallait décrypter le réel, quelque chose qui se décrypte. Là, je suis assez d'accord avec lui sur ce coup-là.
Alors, Luc Lenz a aussi voulu solliciter les deux auteurs, Ella Ballert et Géraldine Doutrio, sur la dimension sensorielle, puisque cette année, le thème de Nature en livre était le toucher en peu de mots et l'art de la densité dans les textes courts. Alors justement, la dimension sensorielle est-elle un moteur de l'écriture? Nourrit-elle les nouvelles? D'abord, Géraldine Doutrio.
Moins sensoriel que sentimental. À chaque fois, les débuts des histoires que j'ai pu écrire, c'est vraiment une rencontre. Et avec le narrateur, l'héroïne est souvent un sentiment de vide, comme on peut en avoir quand on est jeune. Et elle va rencontrer quelqu'un qui va la remplir. Et donc, moi, ça serait plutôt... c'est peut-être une sensation aussi, c'est vrai. Mais qui va vite déboucher sur plutôt quelque chose, une histoire sentimentale. Et puis, ce qui est bien avec les histoires d'amour ou d'amitié, c'est qu'elles ont souvent un début, un milieu et une fin. Souvent, quand on est jeune, justement, ça débute très fort. Il y a une sorte d'acmé au milieu. Et puis, à la fin, ça se dégrade petit à petit. On ne sait pas pourquoi. Il y a un quiproquo. Et souvent, d'ailleurs, c'est des fausses fins, souvent. Je sais pas pourquoi d'un coup on voit plus un ami qu'on voyait, qu'on a adoré pendant 3 mois. Il y a des rendez-vous, on a mis un lapin. Enfin, c'est vraiment bizarre. Il y a une sorte de, il y a quelque chose d'un peu haut de boudin comme ça. Et donc, bon, ça c'est le côté théâtral de l'histoire d'amour ou d'amitié où il y a le début, le milieu, la fin, qui matchait bien, qui s'harmonisait bien avec l'esthétique brève comme ça de la nouvelle. Et donc pour revenir à ta question, donc plutôt qu'un la dimension sensorielle, ce serait plutôt la dimension sentimentale.
Nous venons d'entendre Géraldine Doutrio. Il s'agit maintenant de donner la parole à Ella Ballert. Justement, la dimension sensorielle est-elle un moteur de l'écriture? Jusqu'à quel point la dimension sensorielle vient nourrir l'essentiel des nouvelles? Ella Ballert.
Chez moi, la sensorialité est extrêmement importante, oui, parce que nos sensations sont ceux à travers quoi le monde nous est offert de donner, on interagit avec lui, et c'est ce rapport au réel qui m'intéresse, quelle que soit la manière dont je vais le traiter, et aux différents, en fait, au réel et aux différentes réalités d'ailleurs. Forcément, les sensations sont ce par quoi cela passe, et cela nous est donné ou refusé. Mais oui, c'est extrêmement important, oui.
À l'instant, vous avez pu entendre Ella Ballert. Je rappelle qu'elle écrit sous pseudonyme littéraire, qu'elle a publié une 20aine d'ouvrages dans différents genres éditoriaux, des romans, du théâtre, des ouvrages pour la jeunesse et bien sûr des nouvelles dont il a été largement question. Et je reviens tout de même sur un recueil de nouvelles d'Ella Ballert. C'est le recueil qui a pour titre Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces. C'était donc en 2021 aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Recueil de nouvelles qui a reçu le prix Bocasse de la nouvelle. Et je pense qu'il n'est pas inintéressant de demander à Ella Baller d'expliquer le titre de son recueil. Préfacé par Georges-Olivier Château-Renaud.
Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces. Parce que les poissons rouges sont quand même des bêtes très féroces. Faut savoir que les parents mangent les œufs, donc c'est quand même pas forcément très sympa. Donc oui, alors dans l'unité de mes 17 nouvelles dans ce recueil, c'est qu'elles portent toutes un nom d'animal. Elles se réfèrent toutes en titre à un animal. Certains de ces textes mettent en scène, on voit des animaux réels, des vrais animaux. Et puis dans d'autres, non, l'animal est là. Pas comme tout à l'heure dans le faucon, parce que le camelot, il a un regard de faucon, il a les iris, il a les... Voilà, donc ça fait penser... Voilà. Ce qui ne signifie pas que l'animalité est là au titre d'une métaphore, par exemple, de la cruauté humaine. Parce que ce sont vraiment des textes qui partent du monde réel, d'un monde où, en gros, quand même, d'un monde assez noir, où un certain nombre de prédateurs s'en prennent à un certain nombre de proies, des adultes à des enfants, enfin, d'une manière générale, des puissants ou des forts, à des faibles et à des impuissants, ou privés de pouvoir, ou privés de... Voilà. Donc, c'est dans ce monde-là, quand même, assez réel, inscrit dans notre réalité quotidienne et contemporaine, que tout à coup, quelque chose va basculer, va emporter ailleurs et va créer une espèce de petit pas de côté. Et la référence animale, elle est donc moins là pour montrer du doigt la cruauté humaine, en représenter une métaphore, hein, puisqu'il y a une question de meute, que finalement, on n'a pas besoin de métaphore, on est assez grand pour être cruel sans passer par le détour de l'animal. Non, elle est là pour signaler peut-être ce pas de côté en dehors de la rationalité humaine. C'est ça qui m'intéresse. C'est le fait que quelque chose va, on va quitter le monde rationnel, on va passer d'une réalité avérée, des faits, à une réalité beaucoup plus de l'ordre du rêve et beaucoup plus de l'ordre des faits, ou de la féerie, si vous voulez. Je ne quitte pas le monde, notre monde, mais je quitte une certaine représentation du réel. Mais bien sûr, quand on part dans la surréalité ou dans un univers un petit peu étrange, enfin, je parle pas forcément surréalité, mais quelque chose, un élément d'étrangeté qui est introduit dans le réel, ça parle quand même de notre réel, oui, bien sûr, oui.
Je rappelle quelques-uns des titres des ouvrages d'Ella Baller que vous venez d'entendre à l'instant, enregistrés le 25 juillet dernier à Vézelay dans le cadre du festival Nature en Livre. Mentionnons De Plumes et d'Ailes, ouvrage dans lequel Ella Baller revient sur le pseudonyme littéraire de Romain Gary à Stendhal en passant par elle-même. Je mentionne également Léona D., La femme cachée dans le mythe de Nadja. C'est aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Et à mentionner, en cette année du 150e anniversaire de la mort de la bonne dame de Nohant, l'ouvrage efficace et didactique de Ella Baller aux éditions Court Toujours, qui a pour titre sur George Sand ou presque, et qui est sorti en mai de cette année. Il y a d'ailleurs d'autres écrivains dans cette collection, notamment Colette, sous la plume de Samia Borgi, la directrice du musée Colette dans Lyon à Saint-Sauveur en Puisaye. On marque, si vous le voulez bien, un nouvel intermède musical. On écoute Benjamin Biolay juste avant de tomber. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Mes vues, la fessure,
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous poursuivons le compte-rendu de la déambulation littéraire du festival Nature en Livre qui nous a conduite à Vézelay le 25 juillet dernier. Et au cours de l'étape vézelienne, nous avons rencontré la présidente de l'association Romain Rolland, Martine Liégeois. Alors je voudrais tout de même préciser que Martine Liégeois a édité et préparé scientifiquement l'édition des Carnets d'Italie 1889-1891, un récit de jeunesse de Romain Rolland paru aux éditions Bartilla courant juin 2025. Turin, Florence, Milan ou Venise, à 23 ans, Romain Rolland entreprend un voyage dans la péninsule italienne et il nous laisse les notes inédites d'un jeune homme épris d'art et volontiers goguenard. Et ces carnets révèlent son éveil artistique et intellectuel face au trésor italien, annonçant ainsi les grandes œuvres à venir de l'écrivain. Carnet d'Italie 1889-1891 aux éditions Bartilla, sous la direction de Martine Liégeois, avec une préface de Jean Lacoste. Nous allons d'ailleurs tout de suite entendre Martine Liégeois revenir sur l'engagement politique de Romain Rolland, très proche du Parti communiste, sans jamais avoir adhéré. Et Martine Liégeois nous explique que Romain Rolland a été convié à se rendre en Union soviétique.
Alors en Russie, en 1935, il a fait le fameux voyage à Moscou, où il a rencontré Staline. Alors c'est pas très glorieux quand même. Enfin, c'est, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Oui, il était un peu naïf. Enfin, pas naïf, mais bon. Et puis il était quand même. Il parlait pas russe. Il y avait des traducteurs qui retraduisaient à d'autres traducteurs. C'est-à-dire que sa femme, qui était russe, la deuxième femme, hein, Marie-Romain Rolland, donc, là, elle retraduisait donc en russe ce que Romain Rolland disait, mais avant que ça arrive à Staline, il y en avait encore deux autres qui retraduisaient. Donc oui, ça c'est dans un bouquin qui s'appelle Intelligentsia, enfin c'est une exposition qui a eu lieu à Paris il y a quelques années. Et en fait, et alors il l'avait un peu canalisé, il l'envoyait au cinéma, il allait voir plusieurs films par jour parce qu'il aimait beaucoup le cinéma. Et donc on l'occupait comme ça, quoi, en fait, parce que à cette époque, en Russie, l'idée c'était de faire venir le maximum d'écrivains du monde entier pour se donner pour se donner une bonne image. Alors tous les écrivains, alors il y en a qui sont revenus comme Gide, quand même un peu plus critique que Romain Rolland.
Vous avez pu entendre Martine Liégeois, présidente de l'association Romain Rolland, évoquer un des aspects politiques de Romain Rolland. On va d'ailleurs écouter d'ici quelques minutes le philosophe et germaniste Jean Lacoste, qui s'est investi totalement, qui a annoté le journal de Vézelay que les éditions Bartilla ont fait paraître en 2013. Le journal de Vézelay, le journal de Romain Rolland, 1938-1944, est resté 50 ans sous scellé à la Bibliothèque nationale de France. La veuve de Romain Rolland et sa sœur souhaitaient que la rétention du journal de Vézelay fût prolongée jusqu'en l'an 2000 par respect pour les personnes vivantes qui y étaient mentionnées. De 1938 à 1944, Romain Rolland est dans la mêlée, si l'on peut dire, puisqu'il a partagé le sort matériel et moral des Françaises et des Français durant toutes les années d'occupation. Et effectivement, dans ce journal de Vézelay, il décrit la vie quotidienne à Vézelay, les grands événements du monde et les rencontres qu'il a faites de personnalités très diverses, puisque ça va de Maurice Thorez à la reine de Belgique, en passant par des écrivains, des éditeurs, des officiers allemands qui demandent à le voir, ou des personnes de la région du pays vézelien avec lesquelles il a des rapports chaleureux. Par exemple, Marcelot, pépiniériste à Clamcy, ou le boulanger Crochet, qui habite en bas de Vézelay, mais encore un jeune couple de militants de Migène. Très éloigné au moment de l'occupation de la politique, la question de la foi et de la spiritualité est au cœur de la réflexion de Romain Rolland dans son journal. Il était pourtant indifférent à la basilique de Vézelay, alors que sa femme Macha, russe orthodoxe, se convertit début 1940 rencontre Paul Claudel, grand ami de Romain Rolland, et se plonge dans la lecture d'ouvrages de mystique. Sans tarder, je vous propose d'entendre Jean Lacoste, à qui nous avons tendu notre micro le 25 juillet dernier, participant au festival Nature en livre. Et Jean Lacoste revient notamment sur l'impact, l'importance du travail qu'il a mené pour la publication du journal de Vézelay 1938-1944 de Romain Rolland aux éditions Bartilla. Jean Lacoste.
Il a été question de la fin de Romain Rolland, mais je voudrais dire un mot très rapidement sur la genèse de ce livre-là que j'ai pris la liberté de montrer et qui, par son poids même, est une argumentation. C'est que il faut imaginer l'intellectuel qui, pendant les années un été, reçoit du professeur du Châtelet, qui était vraiment un éminent connaisseur, et il reçoit un paquet qui contenait déjà un certain nombre de pages de Romain Rolland. Et la curiosité aidant, je l'ouvre, puisque c'est 17 mois, je l'ouvre et je découvre le début d'un texte assez étonnant qui mêlait des réflexions sur la littérature, sur la philosophie, les plus hautes, sur la mystique. Il y avait la figure de Claudel qui apparaissait, enfin, tout un univers intellectuel qui était associé à la description assez précise de la vie quotidienne sous l'occupation, avec ce que ça comportait de recherche de nourriture et de contact aussi plus mystérieux, etc. On avait donc une œuvre multiple où se mêlait la réflexion sur la pensée, sur la mort, il faut bien le dire, et puis c'est presque d'humour, enfin, quand il, et à côté de lui son épouse Macha, qui personnalité très contrastée, pour lequel moi j'ai un peu de sympathie, je crois que je suis à peu près le seul, mais elle méritait, c'est une femme très, 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 très dynamique. C'est elle qui conduisait la grosse voiture qui se garait ici même. Et donc, elle prenait les choses en main. C'est elle qui lui a permis de vivre ces dernières années de sa vie. Donc, c'était peut-être une espionne au service de Staline. Qui sommes-nous pour juger? En tout cas, j'ai découvert donc peu à peu, par des envois successifs du professeur, qui savait ménager ses effets, de ce texte étonnant, ambitieux, qui dans lequel un écrivain, sans même chercher la sincérité, mais simplement l'authenticité, la vérité, la complétude des choses, puisqu'il s'agit vraiment de la vision de une vision globale dernière page de son existence. Et donc la diversité des notions et des vibrations de ce texte est quelque chose que j'ai trouvé séduisant, il faut bien le dire. J'ai proposé sa publication, ça a été retenu, ça s'est fait, et par une sorte de miracle, ça a été aussi un relatif succès éditorial. Peut-être pas comme certains, mais enfin, vraiment un livre qui a marqué. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient « Ah oui, j'ai lu votre journal. » c'est émouvant. Hein. Je l'ai offert à mon père, par exemple. Voyez. Et puis, il y avait un autre aspect, je m'arrêterai là-dessus, un autre aspect qui a contribué au succès, entre guillemets, du livre, de l'opus, c'est le lien avec la région. Quand je dis la région, c'est même le lieu, c'est même le local. La résistance, par exemple, ici, la résistance, et la vie des gens de Vézelay, donc qui trouvaient ici, je dis ça modestement, qui trouvaient ici un écho sincère. Et je crois que ça a contribué aussi au succès du livre, et ce qui n'était pas de gagner de l'avance, je me permets de le souligner.
Vous venez d'entendre Jean Lacoste qui revenait sur le travail qu'il a mené et sur l'importance de ce journal de Vézelay de Romain Rolland 1938-1944, publié aux éditions Bartilla Jean Lacoste, que nous avons donc enregistré dans le cadre du festival Nature en Livre. C'était le 25 juillet dernier. Et le même jour, Gertrude Dodard, organisatrice du festival, avait organisé une rencontre avec Claudie Stassard. Claudie Stassard qui est née à Auxerre, qui est artiste. Son œuvre est majoritairement constituée de tableaux au pastel sec, mais aussi de sculptures en papier mâché sur armature en fil de fer. Son travail artistique illustre notamment une réflexion sur le corps et sur la mort. On trouve également de nombreux paysages traités de façon très personnelle, tant sur le plan du graphisme que dans le choix des couleurs. Claudie Stassard a étudié à l'École des Arts Appliqués de Beaune, à l'École des Beaux-Arts de Dijon, puis à l'École des Beaux-Arts de Paris. Elle s'est mariée en 1966, année au cours de laquelle elle s'installe sur la colline éternelle. Elle a créé en 1994 les éditions de la Goulotte, spécialisées dans les livres d'artistes linogravés. Elle s'est associée à Jean-Marie Queneau pour le choix des textes et des illustrations. Elle a notamment illustré « Les idées vives du sang des hommes » de Raymond Queneau, « Bout du monde » de François Augiéras, « Un beau navire porte son nom » de Robert Desnos et « Par-delà la colline ou l'instant » extrait du livre « Le coupable » de Georges Bataille. Je vous propose tout de suite d'entendre Claudie Stassard, que nous avions donc enregistré courant juillet 2026.
Je crois que tout le monde sait un petit peu, connaît déjà un peu mon travail. En fait, entre 1967 et 1994, j'ai fait ces grands dessins, tous ces grands dessins d'anatomie, de naissance, de mort. Et en 94, j'ai eu l'occasion, une amie m'a demandé des petites illustrations pour qui était éditrice, donc elle m'a demandé de faire du lino. J'ai acheté du lino et une petite presse pour voir ce que ça donnait, et ça a été la révélation. Du coup, j'ai arrêté ces grands dessins et j'ai commencé à faire des livres en linogravure. Le premier livre, c'était Nuages, c'était avec Jean-Marie Queneau, avec qui j'ai travaillé aux éditions de la Goulotte. Donc, les livres de l'édition de la Goulotte ont la particularité d'être entièrement linogravés à la main et imprimés, linogravés et imprimés à la main. Donc, c'est des petits tirages entre 60 et 90 exemplaires. Et on a fait ça pendant jusqu'en 2020, enfin de 1994 en 2020. Jean-Marie est mort début 22. Et voilà. Donc tous les livres qui sont dans les étagères sont des livres qui ont été linogravés et imprimés à la Goulotte, au hameau de la Goulotte. C'est pour ça que les éditions s'appellent les éditions de la Goulotte. Au hameau de la Goulotte. Voilà. Dans mon atelier, on a une maison. Il y a 6 maisons à la Goulotte, la maison de Zervos, notre maison, puis 4 autres maisons qui sont occupées. Et donc, j'ai un grand atelier où je travaillais mes grands pastels et j'ai transformé mon... Enfin, j'ai acheté une presse qui est là-haut, enfin, qu'on peut voir. Enfin, une petite presse à épreuve sans très simple, hein, je veux dire, c'est tout à fait rustique comme technique, mais ça permet plein de possibilités. On a eu un entretien avec la bibliothèque, conservatrice de la Bibliothèque nationale, Claire Lesage, au moment du Covid. Donc, il n'y a personne dans l'auditorium. Et on est tous à 1 mètre de distance les uns des autres. C'est un petit peu, enfin, c'est pas très vivant comme interview. Et à la fin de cette interview, il y a un joli petit film qui avait été tourné en 2006. Qui est à la Goulotte et qui se trouve à la fin de l'interview, qui s'appelle « Création d'un livre ». Donc, c'est le livre de Guy Goffet, là, qui est « Adieu aux lisières ». Donc, dans ce petit film, on voit Jean-Marie arriver de Paris avec ses dessins, et on choisit les dessins, et puis après, je commence à linograver, on imprime, on voit tout le processus de la fabrication du livre. Alors, il faut passer toute l'interview. Enfin, on peut aller tout de suite, le dernier quart d'heure. Non, mais c'est un petit peu long. L'interview est un peu longue.
Vous venez d'entendre Claudie Stassard, qui a créé en 1994 les éditions de la Goulotte, spécialisées dans les livres d'artistes linogravés. Elle s'est associée à Jean-Marie Queneau pour le choix des textes et des illustrations. Alors, est-ce que les éditions de la Goulotte continuent leurs activités? Réponse, Claudie Stassard.
Non, là, maintenant, je fais plus physiquement. J'aimerais bien, mais je sais pas, dans ma tête, j'aurais bien envie, mais le physique, je suis pas, voilà, c'est ça le problème.
Vraiment,
Oui, puis il faut piétiner autour de la pièresse et tout ça. Oui, je ne peux plus faire ça. Oui. Tous ceux qui sont dans les étagères, vous pouvez les consulter. C'est des livres de démonstration. Voilà, vous pouvez les regarder tranquillement.
La majeure partie des textes sont inédits.
La plupart sont inédits, oui. Enfin, oui. Sauf le Bataille. Le Bataille, c'est dans le journal de coupable, dans son journal. C'est un passage où on voit qu'il est surveillé dans son jardin, devant un paysage. Mais Guy Goffet, après, il les a republiés. Enfin, beaucoup d'autres poètes ont après remis leurs poèmes qu'ils nous avaient donnés inédits. Ils les ont remis dans des recueils après. Alors, toutes les gouaches sont de Jean-Marie Queneau. Les gouaches, toutes ces gouaches.
Moi, j'aime beaucoup ça, par exemple.
Ça, c'est un pastel. Alors, donc, j'ai arrêté les grands pastels de corps en 94. On a commencé les éditions. Et après, vers 96-98, j'ai recommencé des paysages. Voilà. Donc, à la suite de livres qu'on avait fait, par exemple, là, les cabanes, c'était lié à un livre avec Eric Holder, un poème de Eric Holder, Les cabanes. Donc, j'ai fait le livre, les dessins du livre, et puis, du coup, ça m'a déclenché j'ai fait même une grande série un peu érotique, hein. Et donc, j'avais mis sur la table une planche, on voit bien la planche, et puis la matrice et le tirage des papiers. Et quand on faisait une signature de livre, on faisait un papier de soie, comme en écrire en îlot, ça fait gros. Donc, j'imprimais sur un papier de soie et on le pliait en 4 ou en 8, on mettait dans une enveloppe pour expédier. Donc, toutes ces petites affichettes sont en papier de soie. C'est sur du papier de soie qu'on expédiait. Paul Duroux, là, c'était pour une signature de Jacques Bibonne, avec un livre de Jacques Bibonne, c'est Cladic Ancien.
Il y a même un petit auteur local, Xavier Fornerel.
Ben oui.
L'homme noir.
Ben, l'autre jour, j'ai eu un monsieur qui était passionné de Xavier Forneret. Hop, il a acheté l'affichette, là, le journal, c'est une page du livre agrandi.
Si vous passez à Vézelay, n'hésitez pas à aller rencontrer Claudie Stassard dans la boutique des éditions de la Goulotte. Elle se fera un plaisir de vous accueillir, je n'en doute absolument pas. Vous pourrez bavarder avec elle et puis vous pourrez également découvrir ses œuvres et les ouvrages qui sont en vente, les ouvrages des éditions de la Goulotte, une activité que Claudie Stassard a mis en sommeil pour le moment, mais qui a laissé des traces et des très beaux livres que d'ailleurs le festival Nature en Livres a souhaité mettre en valeur et également rendre un hommage au travail de Claudie Stassard et de Jean-Marie Queneau. Ces wagons livres, compte rendu de la déambulation littéraire de Vézelay du 25 juillet dernier, dans le cadre du festival Nature en Livres. Parmi les auteurs invités, notons le nouvelliste, poète et éditeur Alain Quévès, qui a fait paraître, courant novembre 2025, un essai aux éditions Michalon intitulé « Histoire extraordinaire d'un Américain presque ordinaire ». Il s'agit de revenir sur le destin d'Edgar Allan Poe, né en 1809, disparu en 1849. Nous avons enregistré Alain Quévès à la salle romane du Centre Sainte-Madeleine de Vézelay. Alain Quévès qui nous a offert une petite leçon d'histoire littéraire sur le genre fantastique. C'est à découvrir après la virgule musicale que nous vous proposons. On se retrouve juste après et je rappelle que c'est Wagon Livre et que nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
try to stop it, but it goes even longer. I think about you more than I should, but it feels so good. And it's
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dernière partie de notre émission, et comme je l'avais annoncé avant la virgule musicale, nous allons cette fois-ci entendre Alain Quévès, qui a participé à cette déambulation littéraire vézelienne du 25 juillet dernier dans le cadre du festival Nature en Livre. Alain Quévès, auxerrois, nouvelliste, poète, éditeur, il a créé les éditions Rhubarbe. Alain Quévès chemine depuis l'adolescence en compagnie de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, né en 1809 et disparu en 1849. Il a fait paraître, courant novembre 2025, un essai aux éditions Michelon qui a pour titre « Histoire extraordinaire d'un Américain presque ordinaire ». Et nous allons entendre Alain Quévès, que nous avons enregistré dans la salle romane du Centre Sainte-Madeleine à Vézelay, nous allons entendre le professeur Quévès évoquer le genre fantastique. Petit cours d'histoire littéraire, Alain Quévès.
Rapidement, je vous parle du fantastique, du genre fantastique de Edgar Poe à nos jours. Donc, il faut déjà commencer par dire qu'est-ce que c'est que le fantastique. Alors, la définition classique et reconnue du fantastique, c'est l'irruption du surnaturel dans le monde réel. Ce qui différencie, par exemple, le fantastique, le genre fantastique, de la fantaisie. Vous savez, les gnomes, les terres du milieu, et bon, Tolkien, en gros. Ça n'est pas du fantastique. Ensuite, le fantastique a une tonalité généralement sombre, c'est pessimiste. Il y est question de mort, de maladie et particulièrement de folie très souvent. Ce qui différencie cette fois-ci le fantastique du merveilleux. Le merveilleux aussi, il y a du surnaturel, mais ça peut être un surnaturel positif. Vous pouvez avoir des bonnes fées et des mauvaises fées. Dans le fantastique, il n'y a que les mauvaises fées en gros. Et ensuite, il y a un but, donc une définition surnaturelle, une tonalité plutôt sombre, et le but, évidemment, le but, c'est d'instiller la peur, ou au moins l'inquiétude, l'intranquillité chez le lecteur. Lui donner, alors, la chair de poule. Chair de poule, c'est le nom d'une collection fantastique pour la jeunesse. Et on est dans le toucher, dans la sensorialité. Alors évidemment, c'est pour son plus grand plaisir. Le lecteur, on veut lui faire peur parce que le lecteur aime avoir peur, et qu'il soit enfant ou adulte. Alors, la définition... Howard Philip Lovecraft, qui est un grand auteur de fantastique, mais un fantastique d'ailleurs qui court vers la fantaisie, disait... La plus vieille et la plus forte émotion de l'humanité est la peur. Et la forme de peur la plus ancienne et la plus forte est celle de l'inconnu. Donc, problématique, faire peur avec du surnaturel, sachant que le surnaturel n'existe pas. Je révèle peut-être un secret, mais bon, il n'y a pas d'enfant, donc je peux le dire, le surnaturel n'existe pas. Donc, comment faire peur avec quelque chose qui n'existe pas? C'est toute la problématique du genre fantastique, qu'il soit nouvelle ou roman, mais particulièrement de la nouvelle. Alors, pourquoi partir d'Edgar Poe? Edgar Poe n'est pas le premier auteur fantastique. On pourrait même remonter à l'Antiquité, mais surtout au XVIIIe siècle, où les écrits fantastiques, romans ou nouvelles, ont commencé à pulluler en Angleterre, enfin, c'est méchant ce que je dis là, à se diffuser en Angleterre, en Allemagne, en France et ailleurs. Mais Edgar Poe a une telle influence sur ses successeurs, particulièrement en France, qu'on peut le considérer comme le fondateur du fantastique moderne. Et tout ce que je vais dire et tout ce que j'ai déjà dit, tout se retrouve dans les contes d'Edgar Poe, ou dans ses articles théoriques, parce qu'il a aussi beaucoup théorisé le genre. Donc, on en revient à comment faire peur. Première possibilité, et c'est l'évidence, c'est l'incertitude, l'hésitation. Hein? Avec Edgar Poe, s'installe la norme, une certaine norme d'un récit avec un narrateur. C'est un jeu qui raconte. C'est un jeu qui raconte ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu. C'est un petit peu comme au cinéma, la caméra à l'épaule. Vous ne voyez de l'action que ce que le narrateur veut bien vous dire. Sauf que ce narrateur, il peut mentir ou il peut ne pas tout comprendre. Donc vous hésitez sur la nature de ce qu'il vous raconte. Et c'est ça qui crée la peur. Enfin, qui crée l'inquiétude. On va plutôt parler d'inquiétude, d'intranquillité. On ne sait pas exactement ce qu'on lit, ce qu'il faut en penser, et donc on peut tout en penser. Surnaturel ou finalement naturel. Chez Edgar Poe, par exemple, je vous donne un pitch du Le Cœur Révélateur. Un type a tué quelqu'un et il l'a enterré chez lui, dans sa cuisine. La police arrive, fait une enquête de routine, elle ne soupçonne absolument pas le gars en question, donc tout va bien se passer. Sauf que le narrateur, donc c'est celui qui dit « je », hein, il entend un cœur battre. Et il l'entend de plus en plus fort. Donc il élève la voix, il fait tout un tas de singeries qui finissent par alerter les policiers qui sont venus faire l'enquête. Et le gars finit par révéler « bah oui, vous l'entendez donc pas, ce cœur qui bat ?» Vous ne l'entendez pas, ce cœur qui bat, il est là, il est là, il est là. Et puis donc, il révèle qu'il est le meurtrier. Personne ne soupçonnait. Est-ce qu'il y a du surnaturel là-dedans? Ou est-ce que c'est la folie du narrateur, celui qui raconte l'histoire? Edgar Poe ne donne pas la solution. À aucun moment, il dit qu'un cœur réel, un cœur mort, bat sous le plancher. C'est le lecteur qui fait son opinion. Et c'est ça qui crée l'incertitude. Un autre grand auteur américain, c'est Henry James. Henry James, Le Tour d'écrou, par exemple, même en le lisant 5 fois, 6 fois, 10 fois, on n'est pas sûr d'avoir compris. Et donc, quand on n'est pas sûr d'avoir compris, on se dit, bon, je suis pas passé à côté de quelque chose, là. Voilà. Deuxième méthode, c'est la tension. La révélation progressive des événements, toujours avec la caméra à l'épaule, donc on ne voit que ce que le personnage ou l'auteur, parfois, veut bien nous en dire, jusqu'à la chute. La chute qui n'est bien sûr pas obligatoire, surtout aujourd'hui. On fait plein d'autres choses en nouvelle. Mais la nouvelle classique, la nouvelle norme, fait avec une on va vers une chute. Une chute qui crée un choc. Donc là aussi, généralement, on est... Alors, elle crée un choc, mais elle doit être absolument cohérente avec ce qui a été dit avant. Ça ne doit pas être... Ça ne peut pas tomber du ciel comme ça. La chute amène à relire toute la nouvelle et à se dire, eh bien, en fait, je ne l'avais pas vu venir, mais tout était là. Ça aussi, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça veut dire qu'on peut vivre toute une histoire et n'avoir pas vu... l'essentiel. Alors, évidemment, cette tension, elle trouve son terrain de prédilection dans la nouvelle. Vous l'avez dit, c'est un texte bref, c'est un texte dense. Créer une tension permanente dans un roman, c'est beaucoup plus difficile. Ça, on peut l'imaginer. Mais il y a un moment où il faut... où la corde lâche, où l'élastique casse, alors que dans une nouvelle, on tire, on tire, on tire, on tire, et jusqu'à la chute où ça casse. Et donc, c'est pour ça que la nouvelle est le genre du fantastique, et que la nouvelle s'est développée dans le genre fantastique au XIXe siècle. Tous les auteurs du siècle, même Balzac, Mérimée, Nodier, Maupassant, etc., ont tous écrit des nouvelles fantastiques. qui est devenu vraiment le genre du 19e. Troisième caractéristique, c'est que le fantastique et la nouvelle parlent au corps plutôt qu'à la tête. Hein, on a dit donner la chair de poule, faire se dresser les cheveux sur la tête. On parle plutôt aux émotions qu'à la raison, au moins dans un premier temps. Parce que, évidemment, si je fais des morts vivants qui sortent avec une tronçonneuse et qui s'attaquent à toute l'humanité, ça fait peur, ça parle au corps, ça donne la chair de poule, mais ça n'est pas du fantastique, parce que, justement, il suffit d'avoir, c'est de l'irréel. Vous fermez le livre et votre impression, votre sensation, elle disparaît. Le fantastique, au contraire, persiste après la lecture. Si vous allez voir un film d'horreur, un film d'épouvante, bah vous avez très peur pendant le film, puis après vous sortez dans la rue et tout est fini. Si vous allez voir un film fantastique, vous sortez du cinéma et vous êtes mal à l'aise. Ou si vous lisez un livre fantastique, une nouvelle fantastique, Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et le lecteur est remis en question. Donc, ça veut dire qu'on parle au corps, puis à la raison. C'est-à-dire que la tête finit par se dire « Mais qu'est-ce que j'ai vécu ?» Et c'est pour ça. C'est là la différence entre le fantastique et l'horreur, l'épouvante. Enfin, pour moi, hein. J'ai bien dit qu'on pouvait en discuter. Hein.